Libre FM, les infos.
Voilà, aimables auditeurs, vous êtes à l'écoute de Joliba FM. On arrête un peu avec la musique pour aller avec les infos. Et au sommaire de ces infos, nous allons parler de prorogation de la révision annuelle des listes électorales de 2 mois. L'information a été donnée à travers le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024. Qu'en pense la population? Leur réponse dès le début de ce journal. Nous parlerons aussi d'inondations au nord du Mali, notamment à Tombouctou, avec la montée des eaux du fleuve Niger qui a causé d'importants dégâts. Et dans la page internationale, entre autres l'actualité en Tunisie, 9 migrants sont morts noyés et 6 portés disparus au large de Mardia. Vous êtes à l'écoute de la 105.0 du Liba FM, la nouvelle radio urbaine de Bamako. Aimables auditeurs, bonsoir, bienvenue dans cette page d'information à la mise en onde. Aboubakar Traoré, présentation Sokona Djakité. Nous commençons avec cette question de révision annuelle des listes électorales. Dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, a annoncé la prorogation de la révision annuelle des listes électorales de 2 mois. Qu'en pense la population? C'est dans ce reportage de Makan Fofana.
Initialement prévues du 1er octobre au 31 décembre, les opérations de révision annuelle des listes électorales vont se poursuivre jusqu'en février 2025 à cause des inondations qui ont eu lieu et de la faible participation des citoyens. Pour Bakary Soumaoro et Mahamadou Kouma, respectivement leaders d'associations, cette décision est salutaire.
Cette mesure permettra à beaucoup de nos concitoyens de participer à ces opérations. Ces opérations qui visent à permettre aux nouveaux majeurs de s'inscrire sur les listes électorales, de procéder à des radiations et des transferts. Donc tous ceux qui souhaitent contribuer au développement de leur collectivité ou encore de leur pays sont invités à s'inscrire sur les listes électorales.
Le temps qui a été donné, vraiment, c'est peu par rapport au travail. Donc si toutefois l'État a vraiment pu prolonger le délai jusqu'à février, ça va permettre vraiment aux gens d'aller encore pour vraiment s'inscrire sur la liste électorale, sinon changer leur bureau de vote.
Pour Oumar Diagoraga, juriste, cette prorogation était mal nécessaire.
Ça met vraiment mal au processus de redémocratisation qui nous aspire d'ailleurs tous. Car cela ne tient, j'ose espérer que nos autorités ont le seul souci de bien mener ce processus qui est vraiment un préalable nécessaire au bon déroulement des élections.
Selon Mamadou Lassine Diarra, membre de la mission d'observation des élections modèle Mali, tous les acteurs politiques doivent être impliqués à cette opération.
Les partis politiques, sinon les acteurs, n'ont pas été réellement actifs ou engagés dans la révision électorale. Il s'agit d'impliquer ces acteurs-là, de reprendre tout le processus, c'est-à-dire 1 mois pour la première étape, c'est-à-dire l'enrôlement, le transfert, les radiations, et maintenant un autre mois pour les 2 dernières étapes. Je pense que c'est ce qu'il faut.
La révision des listes électorales est conduite par l'autorité indépendante de gestion des élections avec l'appui du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans les mairies et dans les représentations diplomatiques à l'extérieur du pays.
Nous poursuivons avec des points évoqués lors de la session du Conseil des ministres du 11 décembre 2024 avec le ministre de l'Administration territoriale qui a annoncé la reprise du cadre de concertation nationale, un espace de dialogue entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile afin de renforcer les réformes politiques. Le point avec Meyan Tonkara.
Le chef de gouvernement, ministre de l'Administration territoriale, Abdoulaye Maïga, a informé le Conseil des ministres de la reprise du cadre de concertation nationale, un espace de dialogue entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile pour garantir l'exclusivité des réformes politiques et institutionnelles. Ce cadre qui a permis plusieurs rencontres en 2022 et 2023 est essentiel pour définir l'avenir politique du pays, notamment à travers le chronogramme de la transition. Les 5 et 6 décembre 2024, des rencontres ont eu lieu avec 199 responsables des partis politiques et 59 représentants de la société civile. L'ordre du jour portait sur la révision des listes électorales et l'avancement des réformes. Ces échanges ont permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement à organiser des élections crédibles et apaisées. Il faut rappeler que suite à la formation du nouveau gouvernement, le Premier ministre a reçu une lettre de cadrage du président de la transition mettant en avant 8 priorités dont les réformes politiques, la consolidation du climat social et l'organisation des élections transparentes et apaisées pour clore la transition. Lors de ses conseils des ministres, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a également évoqué les difficultés rencontrées dans la révision des listes électorales en raison des inondations et de la faible affluence. Il a proposé de proroger la révision de 10 mois jusqu'en février 2025 afin de mettre à un plus grand nombre de citoyens de participer au processus électoral.
Ce point de l'actualité en bref concernait une épidémie de choléra au Soudan du Sud. Depuis fin octobre 2024, le Soudan du Sud fait face à une épidémie de choléra. Le pays a enregistré 2555 cas et 32 décès, dont 37% concernant des enfants. Cette situation critique nécessite une mobilisation urgente de fonds pour éviter une propagation incontrôlée de la maladie, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans un communiqué. Les partenaires humanitaires, incluant l'ONU, ont évalué les besoins immédiats à 32 millions de dollars pour financer les 3 premiers mois de la réponse d'urgence. L'actualité d'ailleurs, la page internationale, ce soir, nous serons avec Aminata Dede Sissoko. Bonsoir Aminata.
Bonsoir Sokuna Djakite, bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue pour la page internationale. On débute avec des nouvelles concernant la Tunisie. 9 migrants sont morts, noyés et 6 portés disparus au large de Mardia.
Effectivement, lors d'une tentative de rallier clandestinement l'Europe, 9 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts et 6 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Selon les témoignages de 27 autres migrants secourus par les gardes-côtes tunisiens, au total 42 personnes se trouvaient à bord d'une embarcation de fortune partie dans la nuit de mardi à mercredi de la zone de Djemania près de Sfax.
Et maintenant, les Comores, où 2 femmes ont été condamnées à de la prison ferme pour homosexualité.
En détention depuis juin, 2 femmes poursuivies pour homosexualité ont été condamnées à plusieurs mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Moroni, capitale des Comores. Elles ont écopé respectivement de 13 mois de prison, dont 6 mois ferme, et 10 mois de prison, dont 5 fermes, et une amende de 200 euros chacune, a déclaré leur avocat Kambi. L'affaire révélée en juin avait heurté l'opinion publique de ces pays de 870 000 habitants, à très grande majorité musulmane, où les poursuites pour homosexualité, aboutissant jusqu'au tribunal, demeurent rarissimes. Sokuna.
Maintenant, la Somalie, les forces fédérales se retirent de leur position au Jubaland.
Après des affrontements avec les forces régionales, les forces fédérales somaliennes se sont retirées de leur position dans la région méridionale semi-autonome du Jubaland, a annoncé jeudi le gouvernement. Le gouvernement fédéral somalien a ordonné à l'armée de se retirer de ses positions dans les Bas-Juba, a indiqué le gouvernement dans un communiqué sans plus de précision. La Somalie, en proie au conflit, est une fédération composée de 5 États membres semi-autonomes, le Puntland, le Jubaland, le Galmudug, le Hirshbabel et le Sud-Ouest, et un gouvernement central établi à Mogadiscio, la capitale.
Maintenant, des nouvelles de la Syrie. Le drapeau syrien de l'indépendance a été adopté par l'administration autonome kurde dans l'est du pays.
Effectivement, l'administration autonome kurde dans l'est de la Syrie a annoncé jeudi qu'elle adoptait le drapeau syrien de l'indépendance qui flotte désormais à Damas après qu'une coalition de groupes rebelles menée par des islamistes ont pris le pouvoir dimanche et renversé le président al-Bachar et le président Bachar al-Assad. À la lumière de ces changements historiques, le drapeau de l'indépendance est un symbole de la nouvelle phase car il exprime les aspirations du peuple syrien à la liberté, la dignité et l'unité nationale, a déclaré l'administration, ajoutant qu'elle avait décidé d'aborder ses drapeaux dans l'ensemble des institutions officielles de l'administration autonome. Et voilà ce qu'on a, tout ce qu'il fallait retenir de la page internationale de ces jours.
La page internationale qui nous a amené en Tunisie, aux Comores, en Somalie, en Syrie, c'était avec Aminata Dede Sissoko. Merci.
Merci.
On retrouve l'actualité d'ici, plus précisément le nord du Mali, où nous allons parler d'inondations. La montée des eaux du fleuve Niger dans les régions du nord du Mali, Tombouctou et Gao, cause d'énormes dégâts environnementaux et économiques dans les localités touchées. Les cultivateurs annoncent la perte de plusieurs hectares de cultures à cause du phénomène. Tchanan Tangara nous en dit plus.
Plus de 620 hectares de cultures de riz détruits, selon des sources de l'indicateur du renouveau. Ces dégâts ont été causés dans la plus grande plaine rizicole de la région de Tombouctou le mardi dernier suite à la montée des eaux du fleuve. L'eau, élément essentiel à la culture rizicole, devient un facteur de crainte dans la sixième région du pays. Les riziculteurs à Tombouctou et Gao annoncent avoir perdu des centaines d'hectares de champs de riz à cause des inondations. Selon le président de la coopérative, Amadja Mahman Gobi, cette situation était prévisible. Elle aurait pu être évitée si les autorités régionales avaient répondu à leurs alertes. À Bagoundié, dans la région de Gao, la situation n'est pas moins catastrophique. Selon le conseil communal des jeunes, des moyens humains et matériels ont été mis en place pour prévenir cette catastrophe naturelle, mais ces efforts sont restés vains. C'est un périmètre irrigué où des centaines de personnes travaillent, mais actuellement, tout est sous l'eau, et les cultivateurs sont sortis bredouilles.
Championnat national Ligue 1, nous allons bien sûr parler de sport. Pour le compte de la quatrième journée du championnat national de Ligue 1 professionnel, Djoliba AC s'est imposé 2-1 face à l'USFAS. Avec cette victoire, les Rouges de Eremakono préparent bien la réception de Sagrada en Ligue des Champions. Cette rencontre est prévue ce dimanche 15 décembre au stade du 26 mars. Aminata Dede Sissoko.
Tenu en échec lors de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Champions par les Pyramides FC, le Djoliba AC a désormais un repère avant la réception de Sagrada dans cette compétition continentale. En effet, lors de la quatrième journée avancée, le Djoliba AC a dominé l'USFAS 2-1. Menés au score dès l'entame de la rencontre, les Rouges ont su égaliser et puis prendre l'avantage. Pour l'entraîneur Demba Mamadou Traoré, cette victoire permet à ses poulains d'être sereins avant la réception de Sagrada.
On a égalisé juste avant la mi-temps et en seconde période, on est parvenu à mettre ce deuxième but qui nous libère. Mais là, vers la fin, on souffre très normal parce qu'on joue contre une équipe qui veut revenir. Donc on a essayé de défendre et Dieu merci, ça a bien marché. Sur le match d'aujourd'hui, ce qui a été bon, on va le prendre. Maintenant, ce qui n'a pas été du tout bon, on va beaucoup travailler sur ça d'ici là, Inch'Allah.
Quant à l'entraîneur de l'USFAS, Amadou Cissé, il a souligné les erreurs techniques de ses joueurs.
Depuis qu'on a marqué le premier but, et on a laissé le jeu au Djoliba. Et ce qu'il ne fallait pas faire parce que nous sommes une équipe qui sait jouer et qui a le football basé sur le jeu. Malheureusement, nous n'avons pas su faire ça, nous avons laissé le ballon. Et là, nous avons subi des occasions et sur des situations standards, et on a pris un but qui est une faute du Djoliba et qu'on devait éviter. Malheureusement, c'est après le deuxième but qu'on a repris le jeu. On a produit du jeu, on s'est créé des occasions. Malheureusement, on n'a pas pu égaliser ni prendre l'avantage pour avoir la victoire ce soir. Bon, la prochaine journée, je pense, ça sera un autre match difficile contre le Stade. Et on va aller analyser les erreurs de ce soir, les erreurs tactiques, techniques qu'on a commises. Et on va essayer d'analyser tout ça, se préparer et prendre l'équation Stade Malien aussi, mettre dans la balance pour pouvoir préparer le match prochain pour qu'on ait plus d'un bon résultat.
À noter que les autres rencontres de cette quatrième journée se joueront le vendredi et samedi au stade Mamadou Konaté et au stade Salif Keita Domingo de Kati.
Voilà, aimables auditeurs, c'est la fin de ce journal réalisé avec par l'équipe de la rédaction de Djoliba FM, chef d'édition Sali Konaté, mise en onde Aboubakar Traoré, présentation Sokona Djakité. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes, c'est tout de suite sur Djoliba FM. Bonne écoute, bonne soirée.